Studec Web, 9h-10h, le Mag Info.
Bonjour.
Bonjour.
Petit magazine deviendra grand. Amis de droite, réjouissez-vous, l'esprit d'entreprise n'est pas mort. Amis de gauche, rassurez-vous, l'esprit de contradiction non plus. Dans quelques instants, nous recevrons le Che Guevara de la presse informatique, Yvan Godet, rédacteur en chef de Canard PC. Canard PC, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas le journal des jeux vidéo communistes. Marie Vallenoir, vous nous donnerez votre point de vue sur le magazine des jeux vidéo, point de vue de néophyte.
Oui, ça c'est sûr. Franchement, j'ai découvert Canard PC et depuis, je suis obligée d'aller aux Alcooliques Anonymes.
En deuxième partie d'émission, merci beaucoup Marie-Hélène Noir.
Ça, c'était de l'intervention, qu'elle était bonne. Hein.
C'était excellent. En deuxième partie d'émission, Marie-Hélène Mahé, vous reviendrez sur la 16e journée de la liberté de la presse.
Oui, donc il y avait un rendez-vous hier matin à 10h sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris, donné par Reporters sans frontières. Voilà, donc on fera un petit point sur le bilan 2005. Ça, quoi.
Alors la question du jour, c'est comment monter son propre journal, comment trouver les financements, choisir ses journalistes au nom improbable et surtout survivre dans la masse de la presse hebdomadaire quand les Français lisent de moins en moins. Comment composer avec une communauté de lecteurs active et sans concession ? Yvan Godet, rédacteur en chef de Canard PC et l'invité du Mag Info. Bonjour Yvan Godet.
Bonjour.
Et en attendant, musique sur Studec Web. Et aujourd'hui au Mag Info avec Marie Vallenoir et Marie-Hélène Mahé, nous recevons Yvan Godet qui est le rédacteur en chef de Canard PC. Canard PC, qu'est-ce que c'est ? Marie Vallenoir, vous avez posé votre regard sur cet étrange magazine.
Alors oui, la première fois que j'ai eu un Canard PC entre les mains, c'était dans un lieu d'aisance où l'ADAS, qui ne s'occupe pas que des enfants d'outreau mais aussi des kebabs, n'avait pas mis le pied depuis longtemps. Je parle bien sûr de la chambre d'un étudiant. Je me tournais violemment les pouces en attendant que le fauve habitant les lieux ait terminé de définir lequel de ces disques durs serait maître ou esclave, tout en me disant que s'il avait autant d'imagination dans notre vie de couple, j'en serais pas réduite à prendre du bromure en intraveineuse. Je finis par tourner la tête, à force de m'être luxé les pouces, et voilà que mon regard de braise totalement inefficace tombe sur votre magazine, monsieur Godet. Non, me dis-je en mon fort intérieur, non, ne rentre pas dans son vice où tu te verras bientôt contrainte de porter un masque d'orque et une hache, ou pire, une queue de cheval et des flingues à la ceinture. Mais l'appel de la curiosité et l'ennui mortel qui me dilatait les pupilles ont eu raison de moi. J'ai ouvert une page au hasard et je suis tombée sur ça. Attention, je cite. Sur mon 3200+, un jeu de RAM et de jeu force 6800 Ultra après installation du patch 1.1 et les drivers Nvidia optimisés pour ce jeu, la fluidité avait sérieusement tendance à partir prendre un café avec une frame rate chutant sous les 15 FPS dans les grands espaces. Merci Audi Tréanor de s'adresser à notre directeur d'antenne, monsieur S. Martian, pour les droits de copyright. Moi, étudiante, moi pas comprendre. Ce qui est ça rassurant avec Canard PC, hein, c'est que bien que cet hebdomadaire soit écrit dans une langue étrangère à toute personne ayant deux chromosomes similaires, c'est que les auteurs ne se prennent pas franchement la tête pour écrire les articles. Tenez, l'autre fois, il y en a un qui a rempli toute une colonne sur le scooter de sa femme. De quelle couleur il était, comment elle lui a demandé conseil, tout ça, tout ça. Quoi ? Guillaume, tu me fais un signe ? Pourquoi tu me montres un casque de scooter, là ? Quoi ? C'est notre invité. Ok. Je savais bien qu'il fallait pas parler de ce qu'on comprend pas. Mais de toute manière, moi, je m'en fous, je voulais inviter son frère.
Il voulait inviter votre frère, donc on parle de Laurent Godet. On y reviendra sur Laurent Godet, puisqu'évidemment, je sais que Marie Vallenoir y tient... Il tient particulièrement. Malgré toute la mauvaise foi dont elle a fait preuve, j'ai pu observer à plusieurs reprises que des gens qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo ont pris vraiment du plaisir à lire votre magazine, qui est en fait un petit peu plus généraliste, et on n'est pas obligé de s'attacher forcément aux jeux vidéo pour le lire finalement. Ne serait-ce que pour les news.
Oui, c'est de la presse spécialisée, donc évidemment c'est spécialisé. Mais comme on a tendance à donner un peu dans le pastiche et à faire quelque chose d'un peu inhabituel dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent pas particulièrement aux jeux vidéo, qui ont découvert le journal et qui continuent à le lire malgré le fait qu'ils n'ont pas de PC pour en faire tourner les jeux. En tout cas, c'est les témoignages.
Donc vous n'avez pas forcément un public que de nerds finalement.
Oui, je pense
que c'est...
De nerds, donc, qui sont des Marie Vallenoir, peut-être une définition du nerd.
Des gens comme toi.
C'est fan de jeux vidéo, c'est ça?
C'est-à-dire que le nerd est un être très particulier, puisqu'il vit en autarcie. la majorité des gens qu'il connaît sont des gens qu'il n'a jamais vus et qui sont sur Internet ou sur des forums de jeux ou des choses comme
virtuelles, tu veux dire, donc.
Un petit peu, mais enfin, ça mange des pâtes et ça boit du coca.
Et dans votre magazine, donc, il y a d'autres rubriques, ça parle pas que de jeux vidéo, s'il y a des gens, justement, qui sont pas adeptes, qui le lisent.
Oui, ça parle quand même essentiellement d'informatique et de jeux vidéo, mais c'est vrai qu'on essaye de s'intéresser à autre chose parce que tout simplement les gens qui jouent font autre chose de leur vie. Il n'y a pas que des nerds, et même ceux qu'on qualifie de nerds en général s'intéressent à un certain type de littérature, au cinéma, à l'informatique d'une manière plus générale.
Mais on va parler de presse indépendante parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. On en parle juste après la pub. À tout de suite. Le Maginfo consacré à la presse indépendante. Nous recevons le rédacteur en chef de Canard PC, Yvan Godet. Yvan Godet, en juillet 2004, vous quittez le magazine Joystick, un des plus célèbres magazines de la presse vidéoludique.
En 2003.
Et donc, vous décidez de monter votre propre magazine. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous l'avez quitté en sachant que vous alliez monter ce magazine? Vous aviez déjà préparé votre sortie?
Non. En fait, ça s'est déroulé. On savait très bien. On a quitté le magazine parce qu'il avait été racheté par un autre groupe qui nous plaisait pas.
Futur groupe.
Le groupe Futur, absolument, qui est la filiale française d'un groupe anglais spécialisé dans le jeu vidéo et la presse informatique, qu'on connaissait très bien puisque c'était nos concurrents depuis des années. Donc on savait qu'on partait, mais on savait pas du tout pourquoi. Et puis après.
Juste pour nos auditeurs, vous le quittiez pour quelle raison?
Oh, multiples raisons, le fait qu'on avait tous une certaine expérience de la chose et qu'on savait très bien que on pourrait pas continuer à faire ce qu'on faisait, la façon dont on le faisait et dont on aimait le faire, la seule façon qui était pour nous faisable. Et puis un peu de lassitude et l'occasion à une trentaine d'années de se mettre un coup de pied au cul et de faire autre chose.
Alors comment vous est venue l'idée de vouloir devenir votre propre patron en gros?
Oui, mais chômage, c'est... peut-être.
Oui, non, mais l'idée de créer son magazine. Sinon, vous auriez pu postuler pour un autre ou.
Ouais, c'était pas possible en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que pour nous, le seul espace où on pouvait faire ce qu'on aimait faire, c'était celui où on était. Donc, soit il fallait à la limite suivre et se battre, mais on savait que c'était peine perdue. Soit il fallait le recréer pour nous-mêmes. Donc, tout ça, c'est vraiment une question de liberté. C'est-à-dire que si on décide de continuer à faire ce qu'on aime faire et si on veut le faire dans les conditions dans lesquelles on aime le faire, il faut se les créer soi-même. Donc ça s'est décidé très vite. Hein. On a effectivement, comme vous l'avez dit, on est parti en juillet. En août, on a tous pris des vacances. Il y avait un d'entre nous qui se mariait en Espagne, donc on était au bord d'une piscine. Tout le monde allait très bien. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben voilà. Il y avait quelques idées qui traînaient parce que ça faisait longtemps qu'on était dans le métier. En juillet, on savait pas trop. En septembre, on était décidé. En octobre, on a monté la société. En novembre, on sortait le premier numéro.
D'ailleurs, vous dites, ça faisait très longtemps qu'on était tous dans le métier. Vous avez commencé comment?
Moi, personnellement?
Oui.
Par exemple?
Je suis pas très symptomatique des autres. Mais moi, j'ai une expérience universitaire longue. J'avais une carrière. Universitaire qui était toute tracée puisque j'étais allocataire de recherche en thèse dans la communication un peu comme vous et puis tout d'un coup j'en ai eu assez donc j'ai quitté ça. Par ailleurs j'avais une passion longue pour les jeux vidéo, donc marier presse et jeux vidéo c'était un peu l'idéal pour moi, donc voilà, j'ai postulé, je suis rentré comme secrétaire de rédaction dans un des magazines du groupe Hachette, enfin de la filiale d'Hachette qui s'occupait de ces magazines là et de fil en aiguille voilà.
Vous avez commencé déjà secrétaire de rédaction, c'est une opportunité qui est super, qui est vraiment ouverte, quoi.
Ouais, mais j'étais vieux. j'avais déjà presque 30 ans, deux DEA, donc voilà, je suis rentré parce que on avait besoin de gens qui corrigeaient l'orthographe, des gens qui jouaient aux jeux vidéo, donc voilà.
Et pour les autres, donc pour les autres journalistes, il y a quand même.
C'est très variable. Il y en a qui sont musiciens, il y en a un qui était pilote d'avion, il y en a d'autres qui faisaient aussi des études. Des gens viennent d'univers très variés dans notre rédaction. C'est ce qui fait un peu l'intérêt de la chose, c'est qu'il y a des points de vue. Très différencié, et puis surtout tout le monde a une ou deux passions supplémentaires à côté. Ça enrichit l'ensemble.
Et ils ne font que ça ou ils ont d'autres activités professionnelles par ailleurs?
Alors aujourd'hui, monter une petite société comme Press Non-Stop qui édite Canard PC, c'est une activité à plus que temps plein. Donc les cinq fondateurs associés sont à temps plein sur l'affaire. On a d'autres gens qui sont partis en même temps que nous, qui faisaient partie des anciennes rédactions, mais qui ont décidé de faire leur bout de chemin de leur côté, et qui nous filent un coup de main depuis 2-3 ans, c'est-à-dire qui font des articles une fois de temps en temps, qui viennent dépanner en cas de gros boulot. Mais...
D'accord, vous pensez à qui par exemple?
Vous voulez que je cite les journalistes
du magazine? Pourquoi pas? Est-ce qu'ils font par ailleurs?
Stéphane Hébert, qui signe Fishbone dans le magazine, a une société de dépannage et d'installation informatique de son côté. D'autres écrivent, écrivent des scénarios, d'autres. Par exemple, Laurence Arfati, qui signe à Monsieur Pomme de Terre, qui nous a aidé au départ à travailler sur Canal+, à La Minute Blonde. Il l'a créé avec un camarade. Aujourd'hui, il fait des scénarios de films. Voilà, on a.
On sent qu'il y a vraiment en plus une patte comme ça, parce que bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Canard PC, il y a quand même bon quelques illustrations avec un petit lapin et aussi l'histoire un petit peu interne des gens de la rédaction. Et ça, c'est quelque chose. Personnellement, c'est ce qui m'a permis d'accéder en fait à ça, parce que j'ai un petit peu exagéré. Bon, je sais toujours pas ce que c'est qu'un mod et une extension, j'avoue, mais quelque part ce qui m'a permis de m'intéresser et de me plonger dans ce magazine, et après de poser des questions à d'autres gens en me disant mais attendez, ça a l'air intéressant et tout ça, ça a été de rentrer dans une vie collective, et cet esprit justement qu'on peut ressentir dans les scénarios. Quand vous dites que monsieur Sarfati a travaillé à La Minute Blonde, ça m'étonne pas du tout qu'il ait pu collaborer avec vous, parce qu'on sent vraiment cette patte là.
Oui, c'est une tradition issue du magazine touristique que nous avons quitté, puisque c'est cette équipe-là qui avait fait ce magazine et qui a créé cet esprit de communauté qui est effectivement un peu particulier et qui est assez acrobatique, parce qu'entre le créer chez le lecteur l'envie de connaître les gens et de suivre un peu, et puis une sorte de complaisance, il y a
un
équilibre.
Pas rentrer dans la private joke.
Voilà, c'est un peu votre fond de commerce d'une certaine manière, c'est que on en arrive presque à la private joke, mais que les lecteurs comprennent, puisqu'ils sont un petit peu inclus dans votre univers.
C'est tout le travail. Ouais.
Il y a une relation très particulière finalement avec vos lecteurs.
Ouais, oui. Ça se fait à la fois naturellement, parce que c'est l'état d'esprit des gens qui travaillent. On ne sait pas faire autrement, très honnêtement. Et puis en même temps, on sait très bien que c'est aussi ce que cherchent les lecteurs. Et puis on travaille ce style en essayant que ce soit pas pénible pour ceux qui débarquent et qui se sentent exclus, que ça tourne pas à la private joke incompréhensible pour tout le monde.
Et justement, est-ce que vous pensez que cet esprit communautaire ne pourrait jamais marcher dans des radios, dans des magazines de plus grosse diffusion? Le fait d'être indépendant permet aussi quelque part d'accéder à un esprit communautaire.
Je crois pas. Enfin, comment dire, on fera jamais un journal comme ça, avec un journal comme ça, des ventes comme Public ou Voici, ça c'est certain. Par contre, si vous voulez, Canard PC, ça se situe dans l'échelle de la presse, quelque part entre, je sais pas moi, 50 millions de consommateurs et Philippe Glacial, vous voyez. Donc, du point de vue de l'information, c'est une démarche un peu consumériste. Donc, l'idée étant, vous payez tant pour le journal, pour économiser tant en ne vous trompant pas dans votre achat. Et de l'autre point de vue, c'est du pur divertissement aussi. Donc, on peut très bien faire Fluide Glacial, vendre suffisamment bien et avoir un esprit de communauté, s'attacher à faire de la qualité pour des gens qu'on connaît ou qu'on croit connaître et de qui on a le souci du confort.
Ça, de toute façon, on a bien compris, vous voulez que ce soit un peu ludique, de toute façon, aussi à la lecture
c'est
pour les gens.
C'est indispensable, c'est du jeu vidéo. Le jeu vidéo, si c'est pas marrant, quel est l'intérêt?
Ah bah oui. Hein.
Et le revers de la médaille aussi, c'est que vous avez un public et des lecteurs très attentifs et très sévères peut-être envers vous.
Vous voulez dire très pénibles?
Presque très pénibles, ça c'est vous qui le dites. Hein.
Alors, je plaisante, mais... oui, ils sont très impliqués.
Je pense particulièrement lorsque vous aviez fait des fascicules publicitaires pour certains jeux vidéo, ça avait créé la polémique, il me semble.
Oui, on a une communauté qui réagit très vite à des choses qu'elle ne connaît que de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle très bien que dans le précédent magazine, la publicité était très mal vue. Et notamment, on avait un moment... Alors, tout le monde était très content à la rédaction, parce qu'on avait des grands annonceurs, des shampoings, des choses comme ça, qui, finalement, pour la presse spécialisée, sont une garantie d'indépendance, puisque, pour une fois, ce n'est pas le sujet qui paye. Donc, voilà, L'Oréal, Coca-Cola, ils s'en foutent qu'on descende un jeu. Donc, pour nous, c'était très bien. Les lecteurs étaient furieux. Qu'est-ce que vient faire du shampoing dans mon journal? Donc,
c'est peut-être pour que tu en utilises de temps en temps.
Voilà. Non, mais il y a un travail d'explication. Effectivement, on a une activité qui ne peut pas se passer de publicité, même si on aura peut-être l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. On a un modèle économique qui est un petit peu particulier dans ce secteur.
On en reparle donc juste après. Un petit peu de musique, c'est cool, de Gwen Stéphanie. Dans un instant, ce sera le journal de la rédaction qui sera présenté par Gladys Pénon. Merci beaucoup Yvan Godet, à tout de suite.
Et nous oublions que c'est un privilège dans certains pays, parce qu'en effet, la plupart des pays encore communistes, tout ça, sont très, comment dire, sont censurent énormément les journalistes, ils mettent des barrières, il y a certaines choses à ne pas faire ou à ne pas dire, et ils sont vraiment très sévères.
Moi, je suis sûre qu'en Corée du Nord, ils peuvent s'exprimer facilement.
Oui, faudrait y aller pour vérifier, Viva.
Faudrait pouvoir.
Hein, hein, vous irez vous raconter.
Donc il faut savoir par exemple qu'à Cuba, il n'y a ni télé, ni radio, ni presse indépendante, internet est verrouillé. Et encore aujourd'hui, si vous voulez acheter un photocopieur ou un fax par exemple, il faut l'autorisation du gouvernement. Et donc au-delà de ces interdictions, il y a des choses beaucoup plus graves, comme le sort qu'on réserve aux journalistes dans ces pays-là. Et le bilan 2005 met tous les voyants au rouge. Il n'y a jamais eu autant de journalistes tués depuis 10 ans. Donc en tout, 63 journalistes sont morts en 2005. Plus de 120 sont emprisonnés en ce moment même. Et l'an dernier, 1300 journalistes ont été malmenés, battus ou torturés. Alors, juste pour avoir fait leur travail, bien évidemment. Alors, les raisons sont multiples. C'est que le gouvernement, les différents gouvernements savent bien que, enfin, voient que l'ampleur des journalistes, en plus avec la liberté de communication, les facilités qu'on a à notre époque avec Internet, tout ça, la diffusion est quasiment instantanée. Donc, ils voient bien que c'est très dangereux. Et donc,
il y a un chiffre en plus qui a dû exploser avec la guerre en Irak, assez logiquement, puisqu'ils essaient aussi de contrôler dans ce pays.
Bah oui, tous les pays en guerre également, c'est très sensible. Et donc alors, si vous voulez aider Reporters sans frontières, il y a deux solutions. Vous pouvez aller sur le site, donc www.rsf.org, où il y a des pétitions à signer. Ou alors, souvent, Reporters sans frontières fait des albums photos. Et donc depuis hier, vous pouvez acheter celui de Gilles Caron, donc qui est un photographe qui est mort à 30 ans, après 5 ans donc d'avoir fait des photos donc partout dans le monde. Donc il n'y a pas uniquement des photos de guerre, il y a également des photos de people comme Serge Gainsbourg, il y a des photos de Jacques Chirac avec Bernadette, donc une photo assez rigolote parce qu'ils sont jeunes dessus, donc c'est assez rigolo de les voir à cette époque-là. Et donc cet album coûte 8,90€, et avec cet argent, Reporters sans frontières peut aider entre autres les journalistes emprisonnés ainsi que leurs familles, parce qu'il faut savoir que forcément les familles sont souvent très loin du journaliste emprisonné parce qui ne sont pas dans le pays. Et donc, Reporters sans frontières les aide aussi financièrement.
D'accord, merci beaucoup Marie-Hélène. Yvan Godet, on va revenir à vous. Bon, c'est quand même un sujet un petit peu plus léger, puisque votre liberté est quand même moins menacée, moins violemment, disons. Mais vous avez quand même quitté votre ancien magazine pour cela. Tout à l'heure, je vous qualifiais de Che Guevara de la presse vidéoludique. Ça vous a déplu Pourtant, vous êtes un petit peu un de ces contestataires, un de ces derniers indépendants dans un monde... Qui est vicelé, qui est...
Oh non, je dirais pas ça. Chez Guevara, c'est un mauvais exemple pour nous parce qu'on n'est pas révolutionnaire du tout. Je pense que ce qu'on fait n'a rien de révolutionnaire. C'est bon, j'en appelais tout à l'heure à
c'est des... un acteur de résistance quand même.
Ah ouais.
Face au futur groupe justement dont on parlait tout à l'heure.
Je suis désolée, mais on peut pas tout politiser non plus quelque part.
Hein. C'est quoi, tu veux que François aussi se lance dans la presse indépendante
Pourquoi pas.
Non, nous, on n'était pas du tout dans l'optique de faire ça contre Futur, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. On le faisait pour nous, c'est complètement différent. Donc effectivement,
le Futur Groupe n'est pas un grand méchant, c'est juste que vous préfériez être
absolument
indépendant.
Oui, non, c'est pas des méchants du tout. On connaît très bien les gens qui sont là-bas. Voilà, simplement, ils fonctionnent sur une logique qui n'est pas la nôtre. Et les deux logiques n'étaient pas compatibles dans le même groupe. Donc voilà, on est parti avant qu'il y ait des problèmes finalement, plutôt que...
On parlait de la manière dont vous vous êtes monté. Comment vous avez trouvé les financements? Comment vous avez réussi à monter ce journal? Ça ne doit pas être évident de monter un journal comme ça aujourd'hui en France.
Alors, on a trouvé les financements grâce à Futur.
Justement.
Puisque ce sont essentiellement les indemnités de départ qui nous ont payé et qui ont servi à monter le journal. Donc voilà, on était assez contents. Non, on a retourné nos poches en fait, essentiellement. D'accord. C'est-à-dire qu'on partait sur un concept qui était tellement imbécile que personne nous aurait suivi.
Le concept, c'est...
Et ben, le concept, c'était de monter un hebdo dans un monde qui est
exclusivement mensuel.
Voilà, ce secteur qui est exclusivement mensuel, en papier journal, alors que tout est en papier glacé, sans pub, alors que tous les journaux fonctionnent avec de la pub,
sans CD,
sans plus produits, CD, jeux complets, alors que voilà, c'est un peu la base du marché. Donc voilà, personne nous croyait, tout le monde nous prenait pour des rigolos, ils avaient raison d'ailleurs, mais donc on a vidé nos comptes épargne, on a mis nos indemnités en commun, et voilà comment on a réuni l'argent.
D'accord, mais finalement vous en êtes plutôt bien sorti.
Oui, plutôt pas mal, puisqu'on est toujours vivant 3 ans après, alors que de nombreux autres dans ce secteur-là sont morts.
Mais ça pourrait continuer.
Ah, ça va continuer, oui, bien sûr.
Et maintenant, vous êtes financé grâce aux industries des jeux vidéo, ou ça reste essentiellement basé sur vos abonnements?
Alors,
ou les achats, ou...
Alors écoutez, c'est assez simple en fait. Le modèle logique de la presse spécialisée et de la presse magazine en général, c'est que 80% du chiffre d'affaires repose sur la publicité, le reste étant les ventes. Donc en gros, aujourd'hui, un magazine équilibre avec la publicité, et s'il vend bien, il fait des bénéfices. Voilà. Donc c'est un modèle qui nous paraissait malsain, et nous, on a essayé de faire le contraire, c'est-à-dire... d'équilibrer à 80% sur les recettes du lectorat, en se disant s'il y a de la pub, tant mieux, c'est on s'en sortira mieux. Voilà.
Alors vous focalisez sur le PC, est-ce que vous avez envie d'éditer un autre magazine peut-être sur un autre domaine?
Genre Apple,
ouais non mais non, Canard Apple.
Non, Apple non, parce que on s'intéresse aux jeux vidéo, c'est ce qu'on sait faire. Mais le PC c'était notre domaine d'expertise, donc on a commencé par là. On a beaucoup de projets et peu d'argent. Donc voilà, c'est comme ça que se font les arbitrages. On parlait de liberté. La liberté aujourd'hui, dans un pays démocratique comme la France, elle est essentiellement économique.
Financière, oui, évidemment.
Donc aujourd'hui, les projets qu'on a sont suspendus au fait de trouver les financements pour les lancer.
D'accord, mais juste pour savoir, ce serait quoi? Ce serait sur une
console?
C'est
développé presque non-stop.
Ouais.
Oui, c'est développé presque non-stop.
À travers peut-être le site internet, puisque
voilà, le site internet qu'on a lancé vendredi dernier est une première étape dans l'idée qu'on se fait de ce que peut devenir presque non-stop, c'est-à-dire un tout petit groupe de presse assez concentré et qui apporte de la valeur ajoutée sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire l'information, le jeu vidéo, l'informatique. Donc il y a plein d'autres domaines à explorer, effectivement, qu'on a commencé à explorer avec des hors-séries plus thématiques. Là, on s'attaque un petit peu à la console de jeux vidéo avec Canard Plus sur le web. Demain, pourquoi pas sur un journal.
Ouais. On peut avoir l'adresse peut-être du site si les gens veulent aller
c'est
voir.
C'est www.canardplus.com. On en parle juste après ça. C'est un petit peu de musique et on parle de canardplus.com juste après Outkast et Ya.
Vous venez de découvrir StudecWeb, où vous le connaissez depuis déjà très longtemps. Vous êtes passionné par ces animateurs, vous rêvez de savoir quelle tête ils ont, vous rêvez de connaître leurs pensées les plus intimes, mais aussi quand même de savoir un petit peu le contenu des émissions, tout ça, tout ça. Vous voulez dialoguer avec nous? Eh bien, connectez-vous dès maintenant sur notre fabuleux site internet. Pour la modique somme de 0€, en tapant sur le www.studioecoledefrance.com, vous découvrez le monde de StudecWeb et de l'école Studio École de France. Bon, alors, si vous voulez aussi nous joindre, il y a une adresse mail: webradio@studioecoledefrance.com.
StudecWeb, 9h-10h, le Mag Info.
C'est le Mag Info, retour du Mag Info. Merci beaucoup pour cette
c'est
promotion,
de la promotion
pour le site internet, Marie-Jeanne.
C'est de la promotion canapé.
Non, quand même pas, de la promotion
donc,
fauteuil.
Bref, nous parlions site internet. Très bien, on va continuer sur le site internet. Canardplus.com que vous avez lancé, Yvan Godet, rédacteur en chef de Canard PC, je le rappelle toujours.
Waouh. Calme-toi, Lucas.
Attention, vous faites du canoë, Lucas, là.
Wow. Canardplus.com, donc qui a l'ambition de devenir un site référence sur les jeux vidéo.
Oui, c'est ça, une sorte d'agence de presse sur le jeu vidéo pour avoir l'info en continu, toute l'info sur tous les aspects qui peuvent intéresser le joueur, aussi bien la façon dont fonctionne ce secteur du point de vue business que les derniers jeux, les derniers screenshots, les derniers téléchargements disponibles, etc.
D'accord. Le LCI du jeu vidéo, quoi. Non, mais c'est un peu ça.
Je suis pas sûr que ce soit super flatteur.
Donc...
Ah bon, mince.
Et donc multiplié par deux le travail de presse non-stop, finalement.
Oui, c'est clair qu'on a recruté un petit peu pour ça, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Là, on fait de l'info continue, grosso modo, de 9h du matin à 2h du matin, pour être au top et puis pouvoir rapporter immédiatement les infos qui sortent tant au Japon qu'aux États-Unis avec le décalage horaire.
Bon, alors c'est l'AFP du jeu vidéo.
Ouais.
Ça vous va mieux.
Là, c'est trop dimensionné.
D'accord.
Moi, j'aurais aimé savoir si ça vous intéresserait pas de faire une web radio sur les jeux vidéo. On mettrait des musiques
Tu te proposes peut-être, Viva, non, c'est
non,
ça?
Non, pas du tout. Mais on pourrait mettre les musiques de Mario Bros en playlist.
Ah, oh, ça c'est génial.
On pourrait faire des reportages spécialisés sur les conventions de geeks où ils sont tout plein et
non,
ils
mais
jouent
t'as
tout
raison,
en réseau.
Moi, j'adore les bruitages de jeux vidéo. C'est quelque
c'est
chose
génial.
Hyper marrant.
C'est génial. C'est super radiophonique en plus.
C'est quand même très visuel. Hein.
Oui aussi, mais c'est vrai que ça c'est un rapport avec un peu les dessins animés, certains jeux.
En même temps, vous avez, c'est pas vous je crois, mais vous aviez lancé un concours sur... attendez, c'est dans le dernier Canard PC Magazine. Ah, j'aimerais bien l'avoir, s'il vous plaît.
C'est Lucas qui se les garde
sous le coude. C'est l'info en continu, là. Non, l'avant-dernier, s'il vous plaît, celui-là. Lucas, c'est bien.
Il les a tous, c'est
il
hallucinant.
Les a tous, c'est génial. Il est abonné depuis 5 ans. C'est... Ah, mais ça existe que depuis 3. c'est... Attendez, voilà, c'est ça. THQ qui a organisé une compétition de game design. Et il y en a quand même un qui a lancé un jeu qui s'appelle In the Pit, qui est tout noir. Donc quelque part.
C'est quoi In the Pit?
C'est dans le trou. C'est dans le.
D'accord.
Voilà. Et en gros, si vous jouez à ça sur l'écran, il n'y a rien. Il n'y a pas d'image, on le fait au bruit.
Mmh. Et il y a des jeux qui sortent pour les aveugles, par exemple.
Et alors ça.
Tout est basé sur le son et pour le repérage dans l'espace, sur la réverbération. Donc il y a un gros travail sur le son et la spatialisation du son. C'est pas inintéressant.
Ah bah voilà, c'est aussi une dimension sonore le jeu vidéo, après tout. C'est vrai? Lucas, je vous vois vous rigoler. Qu'est-ce qui
pas
se passe?
Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'on devrait faire une radio sur les jeux vidéo. Écoutez, il n'y a pas de souci. Je me porte volontaire. Mais vous m'avez complètement désarmé. Je ne sais plus de quoi parler. Mais si, je vais vous parler d'autre chose. C'est Viva qui voulait en parler tout à l'heure, justement. C'est de Laurent Godet, finalement. On va quand même en parler un petit peu de votre frère, puisqu'il est largement
vous
associé, finalement,
vous,
à votre magazine.
Bon.
Il a même signé un édito il y a quelques temps, lorsqu'il avait reçu, je crois, le Goncourt 2004. Cette fois-ci, j'ai bon.
Ouais.
Et donc juste il est rentré dans le cœur de vos lecteurs.
Je ne sais pas, j'ai fait tous les efforts possibles pour qu'il le soit,
faire sa promotion.
En tout cas dans celui de Viva apparemment.
Non, personnellement moi j'aime énormément le travail de votre frère. Non mais c'est vrai, je l'ai découvert avec Le Soleil d'Escorta et je trouve ça magnifique quoi. C'est bon, je fais de la lèche, c'est vrai, mais honnêtement, c'est magnifique.
C'est aussi un dramaturge qui est malheureusement pas beaucoup joué en France.
C'est vrai. J'ai annoncé souvent ses spectacles.
Oui, donc le Soleil d'Escorta qui était donc le Goncourt 2004. Et
aussi
qui...
La mort du roi de Songor qui a été le Goncourt des lycéens.
Le Goncourt des lycéens.
L'année d'avant.
Mmh. Voilà.
Absolument. C'est la première fois que ça arrivait, je crois.
D'ailleurs, pour question actuelle, est-ce que vous savez sa prochaine actu?
Oui, il prépare un roman pour la rentrée. Donc,
d'accord.
Qui sortira, je pense, en août ou en septembre. Mais je ne manquerai pas de vous en faire part dans le journal.
D'accord, avec plaisir. Alors, une question un petit peu plus légère. Moi, il y a quand même une interrogation. Au hasard, comme ça, les noms de vos journalistes, il y a Sreanor, El Gringo, ça c'est les nouveaux, Omar Boulon. Dans les anciens, on a Fishbone, Ghana, Monsieur Pomme de Terre. Vous-même, vous faites appeler Yvan le Fou. Bon, c'est vous qui avez trouvé ces noms-là ou c'est des sobriquets que vous donnez les uns les autres?
Non, en général, c'est la personne qui trouve son propre surnom, sauf El Gringo. Bon, le malheureux, il est arrivé, on lui a imposé parce qu'il faisait du café sans arrêt. Donc,
voilà, c'est une bonne raison.
Il est bon, son café, El Gringo, donc c'est venu un peu tout seul. Il n'a pas vraiment eu le choix.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est ces trois nouveaux là qui sont un petit peu les rédacteurs, les pigistes qu'on trouve le plus en ce moment. Ils sont arrivés comment dans la rédaction?
Alors, El Gringo, c'est un étudiant en journalisme, donc qui fait des études en alternance et qui est chez nous pour sa partie pratique. Omar Boulon, nous l'avons accueilli dans le cadre de la réhabilitation des grands délinquants.
D'accord.
C'est voilà. Et puis Tréanor, il a un peu un parcours similaire au mien, c'est-à-dire que nous l'avons soustrait à l'université où il poursuivait des études brillantes en thèse et où il a finalement reconnu la vacuité totale du savoir universitaire.
Vous avez pas honte.
Pour nous rejoindre.
Franchement, offrir un métier comme ça à des gens qui n'en ont déjà pas besoin.
Voilà.
Moi, je vous trouve cruel.
Faut venir par chez nous un petit peu.
Non mais en fait on n'a pas été les chercher, c'est eux qui sont venus.
Vous, ouais.
On a énormément de chance d'avoir trouvé ces trois personnes en si peu de temps, parce que à Joystick en 5 à 10 ans on avait recruté autant de personnes valables qu'à RPC en 3 ans.
D'accord.
On est très très content. C'est pas facile. Non,
vous,
mais
avez
vous, vous avez l'air de dire, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui aime les jeux vidéo et qui sait écrire.
Et ça marche comment? C'est ceux qui vous envoient des articles, qui proposent des tests.
Ça marche comme partout. C'est-à-dire que quand on nous demande, nous on a besoin de personne. Et puis quand on nous envoie des trucs qui sont bien, les gens qui sont bien, on a envie de les faire travailler. Donc voilà. Et ça marche aussi. Ça marche pas forcément à l'enthousiasme, mais en tout cas à la volonté de se bouger un peu.
D'accord, la personnalité.
Ça a l'air un peu ringard et de droite là, ce que je dis, mais
attention, méritocratie là.
Voilà, mais moi je suis très pour la méritocratie, c'est formidable. Non, mais c'est vrai.
Justement, comment ça se passe? Il y a un entretien d'embauche, vous faites jouer sur les jeux.
On est dans les questions scolaires là.
Ouais,
non,
mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe.
Être testeur de jeux vidéo pour un magazine, on nous dit tout le temps, ah mais alors vous passez votre vie à jouer, vous êtes payé pour jouer. Bah non, on est payé pour écrire. Donc voilà, jouer c'est une partie du travail, mais écrire c'est la partie principale. Donc le facteur principal c'est le style. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui trouve ça abscon, pour nous c'est vraiment la partie principale. C'est effectivement le style et la personnalité, parce que voilà, on est une rédaction un petit peu particulière. Il faut que les gens s'entendent bien entre eux, sinon ça fonctionne pas, vu qu'on est tout le temps les uns sur les autres dans un tout petit local.
Car vous êtes pauvres.
Nous sommes pauvres. Mais
intègres.
On a doublement du mérite, parce que quand on est riche et intègre, on n'a aucun mérite.
Oh là là.
C'est moins facile.
Et je veux savoir, donc ça fait rêver beaucoup de gens. Vous recevez beaucoup de sollicitations de gens qui voudraient travailler avec vous.
Oui, beaucoup. Ouais.
Et donc, c'est gens qui lisent un peu comme Lucas ou qui lisent le journal?
Oui, c'est souvent des lecteurs. C'est aussi, ça commence des gens du secteur qui travaillent ailleurs, qui n'y sont pas forcément très bien et qui aimeraient changer de crèmerie. C'est la difficulté, nous, c'est que on recrute pas tellement dans le milieu. En fait, les trois personnes qu'on a recrutées sont extérieures au milieu. C'est parfaitement volontaire, parce que on trouve que le milieu il est un peu trop formaté à notre goût, et que encore une fois la question du style et de la personnalité est prépondérante.
Et pourtant, enfin, c'est quand même clairement, enfin, je le vois au style, à leur style, c'est quand même des gens qui sont clairement influencés par vous finalement, et par votre génération de joystick, par votre ton, par votre style.
Ouais, c'était assez.
Il y a un ton Canard PC.
C'est assez émouvant. Non, c'est des gens qui sont venus en nous disant, vous avez formé mon esprit à l'époque de Joy. Maintenant, je suis comme ça et faut me prendre, quoi. Sinon, je suis foutu.
Parce que je pourrais rien faire d'autre.
Voilà, ouais. Non, mais c'est le sentiment qu'on a nous. En plus, c'est vrai qu'on pourrait pas faire grand chose d'autre. Ou alors, faudrait changer complètement de domaine.
Justement, enfin, vous avez eu la chance de fonctionner. Comment se fait-il d'ailleurs que vous ayez réussi à vous en sortir? Puisque en même temps, les anciens joystick avaient sorti leur propre magazine. Malheureusement, il est mort. Je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Gamepad.
Ouais. C'était Gaming. Ouais.
Gaming. Et donc, qu'est-ce qui a fait que Canard PC a survécu et Gaming non?
Alors.
Parce qu'on est meilleurs.
C'est une question.
On est plus beau, on est plus fort.
Délicate.
Ouais, j'imagine.
Non, en fait, nous, on a pris un chemin alternatif, et c'est ça la clé de.
D'accord.
De notre survie, à défaut d'être de notre succès, parce que c'est encore un grand mot pour nous. Gaming a voulu faire mieux ce qui se faisait déjà. Et c'est un pari extrêmement difficile humainement et financièrement. Et voilà, donc ils n'ont pas réussi, d'autant plus qu'ils ont réveillé le mammouth. C'est-à-dire que le groupe futur qui était en face voyait bien qu'ils chassaient sur leur plate-bande, donc ne leur a pas particulièrement facilité la tâche, qui est logique. J'aurais fait pareil à leur place, c'est tactique. Nous, c'est vrai qu'on est sur un créneau qui est à part, qui menace pas grand monde, donc on nous a un peu laissé tranquille. C'était un choix beaucoup plus modeste, et dans la conjoncture qui a été très difficile ces trois dernières années pour la presse, ça s'est révélé le bon choix, peut-être un peu par chance.
Et donc ces gens-là de gaming, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont retournés dans la presse vidéoludique?
Ouais, ils font un peu comme ils peuvent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pigent à droite, ils pigent à gauche, ou bien ils ont changé d'orientation. Ça dépend un peu des gens.
D'accord. On me fait signe qu'il faut couper, donc merci beaucoup.
Aïe,
Yvan
on
Godet.
Coupe.
On coupe. Et ça
c'est
fait mal.
C'est délicat comme
ça. Et
ben voilà, c'est tout.
Donc merci
ça.
Beaucoup Yvan Godet.
Je vous en prie.
Merci.
D'avoir répondu à notre invitation, d'être venu si tôt au studio École de France sur Studec Web. Qu'est-ce qui se passe
demain? Paris à 0 euros, restez fidèles. Toujours dans la même équipe avec Marie-Hélène Maé, Lucas Malter et moi-même,
Marie-Viva Lenoir.
Et ça sera demain de 9h à 10h sur Studec Web.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.